LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Zacharia.
Donc Zacharia qui a 17 ans.
Qui a 17 ans et qui lui est venu dans le cadre d'un premier épisode psychotique.
Hôpital Robert Debré à Paris, service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
Il est arrivé, je ne sais plus à quelle date exactement. Le 29.
Il y a des symptômes atypiques depuis un petit bout de temps. Des tocs un petit peu atypiques, des apparitions de plaintes hypochondriaques depuis le début de l'année scolaire. Et il y a eu une IRM cérébrale normale.
Donc ça fait plus de 6 mois que ça évolue. Et donc là, l'enjeu, c'est de... Donc il y a à nouveau une persistance des symptômes psychotiques qui est envahissante et il y a une indication d'hospitalisation. Mais l'enjeu, c'est de savoir dans quelle structure on va l'orienter, c'est ça?
Sachant que l'hôpital de son secteur, ils l'ont inscrit sur les attentes et qu'ils devraient potentiellement pouvoir le prendre cette semaine.
Donc ça, c'est la situation, Augustin, que tu voulais réévaluer?
Ouais.
Tu peux y aller, tu m'appelles si jamais il y a besoin.
Très bien.
Ok, et donc du coup, next one.
Il y a Léa qui est venue pour une crise classique. C'est une patiente qui est déjà suivie pour un TSA et un TDAH par Anne Schmidt.
Donc elle a 9 ans et c'est une crise classique.
Avec hétéro et auto-agressivité. Majoration des crises depuis 2 semaines, 3 exclusions de l'école, une crise violente toutes les semaines en ce moment.
Elle est traitée actuellement par quoi?
Sertraline 75, elle a de l'atarax au coucher, du slinito, et a priori c'est tout.
Ok, donc on a de la marge de manœuvre. Next one, vous avez un peu de notion.
Atouma, Alexandre en a parlé vite fait, il l'a vu
hier.
C'est une patiente qui est arrivée sur une tentative de suicide par IMV et qu'il a trouvé, il m'a dit 2-3 mots dessus, hein, il m'a dit qu'il l'a trouvé finalement assez déprimé, que pour lui il y avait une indication d'hospitalisation. Et ce que m'a dit Augustin, c'est qu'apparemment il a mis en place de la fluoxétine hier.
D'accord. Et elle a 13 ans.
Oui.
Et elle, pas de notion d'antécédent, c'est la première fois qu'elle passe...
A priori, il y aurait eu d'autres TS, mais non médicalisés.
Elle a eu un suivi quelques mois, mais elle ne se souvient pas du nom. Elle décrit des difficultés sur le plan de l'attention, des apprentissages, mais qui n'ont jamais été explorées. Et elle décrit aussi des périodes d'insatisfaction corporelle avec restriction alimentaire.
D'accord. Donc il faut vérifier le poids.
Ouais.
Avec un harcèlement à l'école.
Elle est cinquième.
Bon, donc elle, c'est réévaluation du risque suicidaire et de critique ou pas du geste, et voir où est-ce qu'on la trouve, la place d'hospice surtout.
Ouais, parce que je crois que Florence a beaucoup, beaucoup d'attentes là en ce moment.
Comme beaucoup
comme
de gens
tout le temps, ouais.
En Ile-de-France.
Ouais.
Ok.
C'est parti.
Et là, merci.
Et puis on va prévenir aussi.
On va appeler par là.
Jeunesse, le mal de vivre. Une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Premier épisode, santé mentale, le cri d'alarme des professionnels.
Si vous voulez, je veux bien qu'on commence par résumer un peu la situation et qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé aux urgences. Vous êtes arrivé hier soir, c'est ça?
On est arrivé hier après-midi.
Briac Daniel, interne en psychiatrie.
Léa, elle a un diagnostic d'autisme avec TDAH.
Hôpital Robert Debré.
Depuis un certain temps, elle fait pas mal de crises assez violentes, en fait.
C'est des crises qui sont déclenchées par quoi, en général? Tu saurais dire, quoi, Léa?
De la frustration, de la faim, de la fatigue.
La faim?
Oui.
Ouais.
Et comment ça se passe, du coup? C'est des crises où tu vas insulter tes parents
Où je vais insulter mes parents, je vais les taper, je vais essayer de casser des choses.
Ok.
Sur le moment, elle contrôle rien du tout, quoi. C'est vraiment à ce moment-là, elle perd totalement le contrôle et après, elle est très mal. Elle fait quand même des crises régulièrement depuis pas mal de temps. Par contre, c'est vrai que là, elle a eu des soucis à l'école avec des copines.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a des copines cette année dans le niveau au-dessus. Et là, elles veulent plus jouer avec elle, en fait.
Et c'est des copines avec qui tu t'es disputée ou des choses comme ça?
Je sais pas comment dire.
C'est-à-dire, est-ce qu'elles t'ont dit des choses méchantes, par exemple?
Oui, il y en a une.
Ouais. Souvent?
Il y en a une où elle et moi, c'est pas très bien depuis le CE1. Elle me mentait, elle m'insultait des fois.
T'es en quelle classe déjà, là, maintenant?
CM1.
Ok.
Mais bon, cette semaine, ça avait l'air d'être... J'avais l'impression que cette semaine, ça allait mieux. Et puis là, hier, elle s'est levée de mauvaise humeur et...
Et donc, t'as cassé une porte hier, c'est ça?
Oui, mais de ma chambre.
Bah après nous avoir tapé, on l'a déplacé dans sa chambre. Hein. On a dû s'y mettre à deux parce qu'elle devient quand même costaud. Et donc du coup, quand elle peut pas se défouler sur nous, elle se défoule sur le. Soit elle se fait mal à elle se mord. Soit elle tape sur des choses, soit elle jette. Donc là, elle a donné des coups de pied sur la porte. Okay. Et là, quand elle tape, elle fait mal. Enfin, hier, elle a fait mal. Elle a donné un coup de pied à son père dans le genou. Il avait du mal à marcher après, quoi.
Ouais. Et au niveau scolaire, parce que du coup, elle a un diagnostic de TDAH aussi.
Oui.
Et ça l'handicape beaucoup sur l'attention, sur les notes, sur tout ça.
Non, elle a un an d'avance. Il n'y a pas du tout de problème. Mes deux enfants n'ont pas du tout de problème scolaire, en fait.
Est-ce que vous savez quand est-ce que vous avez un rendez-vous avec Dr Schmidt?
Le problème, c'est que là, les rendez-vous, ils sont très espacés. Donc ouais. Là, on en a en septembre.
Oui.
Enfin, on vient de la voir, on en a en septembre. Et encore, ça, c'est parce que celui-là, on l'a pris la fois d'avant. Parce que le rendez-vous qu'ils nous ont donné, c'est en mars. Et là, c'est la difficulté qu'on a. C'est que même quand on a mis en place le risperdal, elle est restée, Léa, deux mois et demi avec le risperdal. Elle a pris 7 kilos avec un traitement qui n'était pas adapté. S'ajoute à ça le fait que je pense qu'elle commence à avoir un trouble alimentaire aussi. On n'arrive plus à lui faire rien manger. Sachant que quand elle ne mange pas, elle fait des crises. Donc là, je suis un peu dans l'impasse, quoi. Elle mange un peu n'importe quoi, elle prend du poids. Quand elle ne mange pas ce qu'elle veut, elle est en crise. Elle ne dort pas bien. Enfin...
Okay. Bon, ce que je vous propose, je veux bien qu'on voit Léa seule un moment pour voir un peu comment tu vas et que tu nous dises un peu si tu as des choses à nous dire dont on n'a pas parlé là maintenant. Ensuite, je vais faire le point avec ma chef qui est là aussi. Et peut-être qu'on rediscutera avec le docteur Schmidt. Je vous laisse sortir du coup et on va faire quoi. Le fait qu'il y ait plus de colère à la maison là et à l'école, ça te rend triste toi en ce moment?
Pas particulièrement, des fois oui, des fois non.
Mais il n'y a pas des moments dans la journée où tu te sens très triste, où tu as envie d'arrêter l'école, ou des choses comme ça?
Si.
Ça t'arrive quand même? Ça t'arrive quand, ça, en général?
C'est quand je suis toute seule à l'école, par exemple, qu'on ne vient pas me voir, que tout ça, j'ai envie de... Voilà. Et des fois aussi, à la maison, je m'enferme dans ma chambre et je repense aux personnes que j'adorais qui sont mortes.
Qui, par exemple?
Mimiana.
D'accord.
Kitaro.
C'était ton char?
Oui.
D'accord. Et quand t'es très triste comme ça, que ce soit à l'école ou à la maison, est-ce que parfois t'as envie de te faire du mal, ou t'as envie de disparaître, ou envie de mourir? Ouais. Ça arrive souvent, ça, que t'as envie de mourir? Tous les jours?
À peu près.
Et dans ces cas-là, ça dure combien de temps? Est-ce que ça dure 10 minutes, une demi-heure, une heure? Est-ce que c'est toute la journée?
Une heure maximum.
Une heure maximum, ok. Et comment tu t'en sors dans ces moments-là? Tu vas voir tes parents?
Dans ces moments-là, je me mets dans ma chambre, je m'enferme et... Je me laisse redescendre.
Et ça marche?
Oui.
Et
me laisse tranquille avec mes doudous, je les serre. Et
ouais,
puis...
ça t'aide un petit peu.
Oui.
Et quand t'as envie de mourir, ça veut dire que t'as déjà un moment décidé, bah tiens, là, demain, je vais trouver un moyen pour mourir, des choses comme ça?
Bah des fois, je pense j'ai envie de mourir et j'essaie de me faire hyper mal. Des fois, j'ai envie de me blesser, de mourir.
Tu fais quoi pour te blesser?
Bah par exemple, j'essaie de me mordre hyper fort.
Mais ça, c'est pour te faire du mal, c'est pas pour mourir. Bon, d'accord. T'as jamais essayé de mourir?
Non.
Non.
La crise sanitaire liée au Covid a fait exploser le mal-être chez les jeunes et a rehaussé le niveau de vulnérabilité individuelle. Mais aujourd'hui, plus de 3 ans après, la vague de problèmes psychologiques et psychiatriques est toujours là et se maintient dans le temps, à la grande surprise des médecins et des parents. Faut-il se fier au discours ambiant portant sur une dégradation brutale de la santé mentale des enfants depuis le début de l'épidémie? L'épidémie ou la guerre en Ukraine ont joué un rôle de révélateur, voire d'amplificateur, parfois, pour des jeunes qui avaient déjà des troubles et dont la pandémie n'a fait que les aggraver.
Alors, il y a différents contextes et c'est vrai que nous, on les différencie un petit peu selon leur trajectoire développementale, sachant que c'est pas parce qu'on a une trajectoire développementale de type trouble du neurodéveloppement qu'on n'a pas le droit aussi parfois de se déprimer, d'être anxieux, d'avoir des crises suicidaires.
Mylène Feufeu, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré.
Donc il y a des choses qui peuvent se rejoindre, mais c'est vrai qu'il y a les trajectoires du neurodéveloppement. C'est des choses où on a l'impression qu'il y a une augmentation des patients concernés, mais c'est aussi parce qu'on a maintenant, on est plus sensibilisé, on a des meilleures techniques de dépistage, on essaye de mettre en place aussi les mesures de soins pour les accompagner. Bon, vous connaissez un peu le contexte de la pédopsychiatrie, malheureusement, c'est une sinistrose hein, dans pas mal de régions en France. On est quand même aussi concerné en Ile-de-France. Donc, en tout cas, ces patients-là, je pense que si on regarde sur les chiffres, on a l'impression qu'il y a une prévalence qui augmente. Or, c'est probablement aussi parce qu'on les détecte mieux et on les prend mieux en charge. Et puis les jeunes aussi vont mal. Et là, c'est vraiment sur des problématiques, donc on dit plus de troubles psychiatriques, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les problèmes d'addiction. Il n'y a pas que les écrans, mais les jeunes rencontrent aussi plutôt maintenant toute substance ou et le problème des écrans. Et il y a aussi les pathologies en fait, où c'est des fonctionnements qui sont à risque d'évoluer vers des troubles de la personnalité, qui est encore quelque chose d'un petit peu différent. Il y a aussi tout ce qui est lié au ce qu'on appelle les événements de stress post-traumatique. Et c'est là où, en fait, ça fait le lit énormément de motifs de consultation. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes arrivent à en parler. Et nous, on a vu aussi des explosions de ces motifs de consultation et qui sont, en fait, souvent cachés derrière une souffrance, un épisode dépressif, une crise suicidaire. Et ça peut être des contextes d'harcèlement scolaire, d'harcèlement divers et variés, le cyberharcèlement qui est aussi un vaste sujet, et puis tout ce qui est contexte post-traumatique d'abus, de maltraitance, de violences sexuelles. Et ça, maintenant, c'est... honnêtement, nous, aux urgences, là, maintenant, on en voit de plus en plus qui les verbalisent. Or, je pense qu'avant, elles existaient tout autant, sauf qu'il n'y avait pas la même libération de la parole, pas la même sensibilisation des jeunes, et donc, du coup, on passait à côté.
Bon, on va faire le point entre nous, d'accord ? J'en discutais avec ma chef, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi.
Okay.
Et puis ensuite, je reviens te voir toi et ta mère pour te dire comment est-ce qu'on peut vous aider.
Vous faites quoi, vous ?
Moi, je suis pédopsychiatre. Donc, je travaille ici à l'hôpital et un peu aux urgences en même temps.
Okay.
Donc, je vois des enfants comme toi, en gros.
Et tu leur poses tout le temps des questions comme ça ?
Ah, je pose pas mal de questions, ouais.
C'est curieux ?
Bah, j'essaye. Ça fait pas
mal. Moi, je suis très curieuse.
Bah, c'est plutôt bien.
Dès que j'entends un truc qui m'intéresse, je tends l'oreille.
Oh, c'est une qualité, je pense. Bon, à tout à l'heure, ok ?
À tout à l'heure. Maman, tu peux rentrer.
Ambre, elle connaît déjà Robert Debré, puisqu'elle a déjà fait un passage de quelques semaines, il y a un peu plus de 2 ans.
Estelle.
Et on revient aujourd'hui parce que le trouble dont elle souffre, en fait, s'est aggravé ou a muté, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et elle est en grande souffrance. Donc on a la chance d'être accueillie par l'unité psychiatrique aujourd'hui. Elle est suivie en hôpital de jour, elle est suivie par une clinicienne, on lui apporte tout le soutien et l'amour qu'on peut lui apporter au quotidien, mais en fait, c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, elle est en train de s'enfoncer dans un espèce d'état léthargique et elle se replie sur elle-même. Elle arrive même plus à sortir de chez nous, en fait. Elle a plus de vie. Elle ne vit plus. Elle a beaucoup été harcelée à l'école, hein, en fait. Et je pense que... elle s'est mis une pression de dingue, en fait, pour cette entrée en sixième, parce qu'elle a eu l'exemple de sa grande sœur, qui a pas mal souffert aussi. Et la première pression, c'était bien sûr une pression physique. Je dois rentrer dans un moule, je dois être un peu comme l'image qu'on attend de moi. Et donc, elle s'est mise en tête des standards très, très élevés. Pour atteindre ces standards, elle a perdu 20 kilos en, je sais pas, au moins 5 semaines, quelque chose comme ça. Elle a arrêté de manger, en fait. Et tout va très vite. Et en tant que parent, on voit que son enfant ne va pas bien et a les yeux creux, etc. Mais en même temps, c'est l'adolescence, donc elle se met des trucs hyper larges. Et puis, on est pris dans cette espèce de quotidien. Donc, on n'est pas forcément tout de suite alerte. Alors que pourtant, tout vous dit, votre enfant va pas bien, etc. Mais on se met aussi parfois des œillères, je pense. Et quand elle était hospitalisée pour son anorexie prépubère, en fait, en quelques semaines, elle s'est rétablie. Elle a retrouvé ce qu'on appelle un poids de forme, qui est hyper important. Le poids de forme, c'est ce qui te permet de sortir en fait de l'hôpital. Elle a repris le cours de sa sixième plus ou moins bien. Elle s'en est sortie. Après, les élèves sont pas devenus plus sympas parce qu'elle était hospitalisée ou quoi que ce soit. Et puis rebelote, avant l'entrée en cinquième, c'est pareil. Elle s'est remis une pression de dingo. Et là, elle est tombée dans l'inverse, donc ce qui était la boulimie. Donc elle a commencé, dès qu'elle avait des angoisses, c'était tout le temps à énormément manger. Un espèce d'appel du sucre qui est venu, et le sucre appelle le sucre. Donc c'était des épisodes sucrés en permanence. C'est vrai que c'était hyper difficile parce que j'ai passé un peu plus d'un an à essayer de la forcer à manger. Et là, on s'est retrouvé dans la situation inverse où il a fallu la réfréner, cacher la bouffe, etc. Enfin, c'était horrible. Mais malgré tout, même si on cache ou même si on fait les courses au jour le jour pour pas qu'il y ait trop de réserves à la maison, elle arrive toujours à faire les fonds de placard pour se faire des trucs, même des trucs dégueux à manger, pour rassasier ses crises, en fait. Jusqu'au moment où, ben, elle a pris, je pense, en quelques mois, une quarantaine de kilos, en fait. On était pourtant suivis en pédopsie, avec une clinicienne, avec un médecin de famille, mais on n'a pas réussi à enrayer ce truc. Et, pardon. Comme elle avait déjà une image d'elle qui était hyper dégradée, de passer de moins 20 à plus 20, plus 40, elle s'est pas du tout reconnue, en fait. Elle a commencé à développer une espèce de méga angoisse sur qu'est-ce qu'on va penser d'elle, en fait. Elle a commencé à dire des mots sur elle qui étaient très, 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 très durs. Mais vraiment hyper durs, j'ai pas forcément envie de les répéter. Et là, c'était une espèce d'escalade parce que au départ, elle continuait d'aller au collège et puis elle me faisait des fugues, en fait. Et elle m'appelait au bout de 2 heures en me disant « Maman, en fait, je suis dans la rue. Ça fait 2 heures que je suis... » On était au mois de janvier. « Ça fait 2 heures que je suis assise sur un banc, j'arrive pas à aller au collège, faut que tu viennes me chercher. » Et là, toi, tes parents, tu dis « Ok. » Donc tu cours, tu sors de ton travail, tu cours, tu vas chercher, tu la récupères et tu essaies de la rassurer comme tu peux, C'est très con, tu la ramènes chez toi et puis tu dis bon, ok, c'est juste un épisode, elle a eu une espèce de crise d'angoisse, mais ça va revenir. Et puis en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure des jours et puis des mois, ben ça s'aggrave, en fait. Jusqu'au moment où ma puce sort plus du tout de sa chambre. Elle n'y arrive même plus. Il se passe plus rien. Sauf les idées noires, bien sûr. Et les mots qui ressortent, c'est... Je ne vaux rien, je n'ai pas d'avenir.
Donc ça, c'est l'unité Simon.
Hôpital Pitié-Salpêtrière, service de pédopsychiatrie.
Voilà, allez-y.
Bonjour. Allez, viens, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a, t'angoisse?
Je m'appelle Alice Aupetit, je suis médecin pédopsychiatre donc dans ce service. Et je suis responsable de cette unité d'hospitalisation, qui est une toute petite unité où ils sont que 6 patients. Et c'est l'unité dite de soins intensifs de notre service, parce que donc, il y a beaucoup, beaucoup de lits d'hospitalisation dans ce service. Mais cette unité accueille les enfants et adolescents qui ont le plus besoin de contenance, d'être dans une petite unité, soit parce qu'ils sont trop agités, qu'il y a une dangerosité, soit parce qu'ils ont besoin d'être surveillés sur le plan du risque suicidaire, soit parce qu'ils ont... besoin de soins plus rapprochés, par exemple s'ils sont tellement mal qu'ils sont pas en état de manger ou de prendre soin d'eux sur le plan de la toilette, de l'hygiène corporelle, etc. Donc ici il y a une équipe qui est très qui les entoure beaucoup, c'est une unité voilà un petit peu cocon. Et puis généralement quand ils vont un petit peu mieux, ils peuvent aller dans les unités les plus grandes unités où ils sont plus nombreux. Mais là, par exemple, dans les 6 qui sont là, il y a un garçon qui a une maladie orpheline. Et voilà, ce garçon, il devient ado, il a un handicap, une maladie quand même assez grave. Et il va pas bien du tout. Il peut avoir des idées suicidaires. Il est très agressif avec ses parents, très violent à la maison. Et donc, il est là pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui le rend si violent, essayer d'aider sa famille aussi. Une autre patiente qui est là en ce moment, alors c'est une situation très particulière, c'est une patiente qui habite à l'étranger, enfin dont les parents habitaient à l'étranger, où elle a eu des gros gros troubles du comportement, c'est-à-dire qu'elle a fugué, elle s'est prostituée, elle a pris beaucoup de drogue, elle n'a que 12 ans. Elle a un parent qui est à moitié français et les parents ont débarqué en France, se sont pointés aux urgences pédiatriques en disant... qu'il fallait s'occuper de leur fille. Et elle s'est retrouvée dans notre service. Les parents sont repartis très loin, à l'autre bout du monde. Et cette gamine, du coup, elle est là. On travaille beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance, sachant que ses parents n'ont aucune intention de la reprendre. On a un billet de recrutement. Enfin, on a beaucoup de patients comme ça qui ont des situations sociales hyper compliquées et qui souvent trouvent ici quand même une espèce d'apaisement, d'être dans un lieu clos. Alors le fait que ce soit fermé à clé à la fois, c'est évidemment une privation de liberté et c'est très dur pour certains, mais c'est aussi clairement un apaisement pour d'autres.
Ce qui est important de se rappeler, c'est que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle a finalement diverses sources, mais ces sources ont toujours à voir avec une forme de régulation par rapport à la société. C'est pour ça que la psychiatrie, et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en particulier, est toujours dans une intime relation avec l'évolution sociétale.
David Cohen, psychiatre, professeur et chef du service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
Donc à l'époque, il y avait deux enjeux. Il y avait ce qu'on appelait les enfants idiots et qu'on n'arrivait pas à scolariser. Et puis il y avait, entre guillemets, les enfants des rues qu'on n'arrivait pas à socialiser. Donc la question de la délinquance. Et finalement, ces deux courants, ils traversent aujourd'hui la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, même contemporaine. Et puis après, il y a eu d'autres enjeux qui sont venus, qui sont des enjeux un tout petit peu plus spécifiques et médicaux, mais qui sont liés finalement à des questions de diagnostic différentiel et de précision finalement de notre nosographie. Donc il y a eu l'histoire de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Et puis la question de la psychiatrie d'adulte, puisque finalement la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle a dû aussi se différencier par rapport à la psychiatrie d'adulte, qui était déjà une science émergente au 19e, alors que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est venue après.
Il y a quelques années, faire un diagnostic de dépression à l'adolescence, c'était clinique, mais nous n'avions aucun outil pour le faire. Parce que tous les outils qui existaient pour les adultes n'étaient pas adaptés aux adolescents.
Marie-Rose Moreau, psychiatre et chef du service de la maison de Solène.
Donc on disait, cet adolescent, il va bien. Mais non, il va pas bien. Mais simplement, un adolescent déprimé, effectivement, il va pas se présenter comme un adulte, parce que c'est un adolescent. Et donc, par exemple, je sors d'un groupe avec les adolescents, ils sont 20 en ce moment hospitalisés, il y en a 12 ou 13 qui sont gravement déprimés, la plupart sont suicidaires. Mais bon, ce matin, on a beaucoup ri, on a fait de l'ironie, ils m'ont raconté des blagues, très noires, mais des blagues quand même. Et 3 minutes plus tard, en sortant de ce groupe, ils peuvent avoir envie de mourir. Parce que c'est ça, la dépression. Et c'est ça aussi, une des caractéristiques de l'envie de mourir à l'adolescence, c'est que c'est très impulsif. Un rien peut vous enlever l'idée. Par exemple, un regard, tout d'un coup... Vous voyez un truc, vous trouvez que c'est très joli, vous entendez une chanson magnifique, et ça vous illumine. Et puis, 3 minutes plus tard, quelqu'un vous regarde mal, ou un adolescent dit vraiment, toi, t'as aucun intérêt, un ami, un collègue, et à ce moment-là, vous vous effondrez totalement, parce que vous n'avez pas cet élan vital.
Intervention demandée. Premier étage.
Une autre patiente qui est là en ce moment, alors c'est une patiente qui a présenté un syndrome catatonique. Donc la catatonie, c'est un syndrome qui est assez rare, qui associe des signes moteurs, c'est-à-dire souvent un ralentissement physique extrême, une stupeur, parfois des gestes mécaniques un petit peu étranges. Il y a des signes moteurs et puis des signes psychiques avec souvent un mutisme, une espèce de grand ralentissement psychomoteur comme ça. Et en fait, cette jeune, elle a été victime d'inceste. Le père était extrêmement violent avec la maman et les sœurs. Ils habitaient en province. La mère est partie avec ses enfants sous le bras. Elle a débarqué à Paris. Et voilà, cette ado, elle était dans un état extrêmement préoccupant. Et donc, elle a été hospitalisée. Elle va de mieux en mieux. Et voilà, tout le travail autour du trauma a été fait sur le plan aussi judiciaire, de la protection de l'enfance, etc. L'autre patiente qui est là en ce moment, donc vous allez rencontrer, c'est une patiente qui fait une dépression et des tentatives de suicide très graves. Elle ne veut absolument pas en parler, mais ça devient même un symptôme. Le fait qu'elle ne veuille pas du tout en parler, c'est que c'est une patiente qui est trans, c'est-à-dire qu'elle est née garçon. Et puis, il y a 3 ans à peu près, elle a dit à sa famille qu'en fait, elle était une fille, elle se sentait fille. Mais elle ne se considère même pas trans. Elle est presque transphobe, comme dit son papa. C'est-à-dire qu'elle dit « je suis une fille, je suis pas trans, je suis une fille ». Et elle a eu fait un épisode délirant, très grave. Elle est complètement persécutée par une médecin du service. Donc elle est persuadée qu'elle veut la tuer. Donc la patiente, elle est arrivée avec un immense couteau à l'hôpital pour se défendre si ce docteur voulait la tuer, etc. Donc là, elle est voilà, dans un épisode psychotique sévère. Donc on essaie de faire redescendre ça. Voilà. On a discuté un petit peu avec ta maman, à la fois de comment s'est passé un petit peu la visite ce week-end. Comment ça s'est passé d'après toi ?
Bien.
Bien ?
Ouais.
Ta maman nous disait que vous aviez pas mal parlé de l'école.
Oui.
Ouais. Ça, c'est une de tes grandes préoccupations, toujours, et particulièrement en ce moment. Et toi, t'as envie de redoubler. Alors que t'es une hyper bonne élève. Malgré le fait que tu as été beaucoup hospitalisée cette année, finalement, en école, bah déjà, tu as continué les cours ici et puis tu as un super niveau. Et c'est vrai que l'école, ils ont dit, bah, nous, on n'est pas d'accord pour un redoublement, sauf s'il y a une raison médicale. Et alors, on réfléchissait avec Dr Chevauché, est-ce qu'il y a vraiment une raison médicale ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que oui. Le fait que j'ai été hospitalisée pendant longtemps et que j'ai raté beaucoup de choses, ça justifierait... Enfin, la moitié de l'année, je l'ai ratée, j'ai pas suivi, j'étais pas là. Et en plus, si je fais une terminale, ça veut dire que je dois me présenter au bac de français. Et ça, pour moi, c'est pas envisageable là, pour l'instant.
Ce dont on parlait avec ta maman, c'est que c'est vrai que sur certains trucs, parfois, t'as des espèces d'idées fixes, on disait. Enfin, c'est très très difficile de te faire un petit peu entendre quelque chose avec lequel t'es pas tout à fait d'accord, de te faire un peu changer d'avis. Les trucs pour toi, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ta maman nous parlait, par exemple, du fait que toi, sur toutes les photos de ton enfance, avant la transition, les photos, les bulletins, les cahiers, l'école, que t'as envie qu'on se débarrasse de tout, 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 comme si ça n'avait pas existé. Et pourtant, t'es d'accord avec moi que ça existait quand même.
Non.
Pour toi, ça n'a pas existé.
Non.
Quand toi, tu dis, voilà, je suis pas trans, je suis une fille.
Ah oui.
Ah oui. Et quand on t'a fait une transition, t'avais un autre prénom, ça fait partie de ton histoire, non ?
Pour moi, non.
Et sur différents sujets, tu peux être comme ça, un petit peu rigide, finalement, c'est ce qu'on disait, avec un besoin de maîtrise comme ça, les choses, pour toi, elles sont d'une façon et pas d'une autre. Et à la fois, je pense que ça te donne un espèce de moteur et tu fais plein de choses hyper, hyper bien. L'école, le chant, t'es une grande chanteuse. Et en même temps, je pense que parfois, dans la vie, ça t'handicape un petit peu de ne pas avoir un petit peu plus de souplesse. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être rigide, mais peut-être que je le suis. Je sais pas.
Bon, en tout cas, pour cette question de scolarité, on va essayer de réfléchir... Alors, tout en souplesse avec ta maman, toi, ton papa, ton lycée, pour voir ce qu'on décide.
Le dernier jour, elle était complètement pour mon redoublement.
Pour ton
redoublement. Elle était prête à faire un certificat, etc.
Et les idées qu'il y avait eu, par exemple, sur le docteur Brunel ?
Ça va, ça s'est calmé. C'est juste quand je me réveille la nuit et que j'y pense que des fois je l'entends.
Mais t'entends sa voix, c'est ça ?
Oui.
Et elle dit quoi ?
Elle dit « je veux te tuer ». Mais de toute façon, c'est beaucoup plus épisodique qu'avant.
Et j'ai l'impression que là, quand on parle, comme si tu te rends compte que c'est une voix et que c'est pas vraiment vrai qu'elle veut te tuer, docteur Brunel.
Oui.
Maintenant, tu sais que c'était dans ta tête.
Oui.
Ok, ça c'est quelque chose qui a évolué. C'est bien. On sait que t'as très très envie de sortir de l'hôpital. Nous aussi, on a envie que tu sortes, évidemment. Mais on a envie que les choses aillent un petit peu mieux et qu'on ait un petit peu continué le changement de traitement médicamenteux avec le Zyprexa, le nouveau médicament, dont j'ai l'impression quand même qu'il te fait du bien sur ces idées comme ça un peu délirantes que tu avais. En tout cas, ce week-end, on se disait avec ta maman que tu pouvais avoir une grande journée de permission. Toute une journée.
Contente ?
Oui, c'est bien.
Tout à fait partante, toi aussi. Ouais.
Mmh.
globalement, comment va la jeunesse? Vous avez mené une étude sur la santé mentale des jeunes. Et vous avez dit dans cette étude que ça s'aggrave, que près de 20% des jeunes en France connaissent un épisode dépressif.
Alors, nous menons régulièrement des études. Et effectivement, les dernières études, mais qui rejoignent absolument les études, pas seulement françaises d'ailleurs, mais européennes, montrent qu'il y a une augmentation. On a commencé à faire ces grandes études il y a 25 ans à peu près. Et au début, on trouvait à peu près 8 à 10% d'une classe d'âge qui présentait une souffrance psychique, pas que de la dépression. Ça peut s'exprimer sous d'autres formes, comme l'anorexie, ou une phobie scolaire, ou des tentatives de suicide, d'ailleurs, sans dépression, ou même une souffrance généralisée, anxieuse, par exemple. Bon, 8 à 10%, c'est déjà beaucoup, hein. Mais les dernières études Covid, c'est plutôt, effectivement, 18 à 20%. Donc, c'est-à-dire que ça a quasiment doublé en quelques années, dans cette période. Et donc, oui, ça fait beaucoup d'une classe d'âge. Alors, bien sûr, à des degrés divers, ils ne vont pas tous avoir une envie de suicide, heureusement. Mais des idées suicidaires, par exemple, c'est plus de 20%.
Il y a une augmentation de la souffrance psychologique des enfants et des adolescents, donc, et le post-Covid le montre très bien. Il y a aussi des évolutions qui sont particulières, c'est le rajeunissement de la violence.
David Cohen, psychiatre, professeur et chef du service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
Et ça, c'est quelque chose qu'on constate dans tous les champs de la société et en particulier dans l'expression particulière qu'on voit en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et on l'avait regardé modestement dans nos urgences et on avait vu qu'entre 1990, 2000, 2010, à chaque fois, on avait entre 6 mois et 1 an de diminution d'âge en termes d'expression des urgences et de la violence. Et donc aujourd'hui, par exemple, l'âge moyen, ça va être 12 ans et demi, alors qu'en 1980, c'était 15 ans.
L'accélération des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans, elle est d'à peu près 10% depuis 10 ans. Et ça touche essentiellement les filles. Mais en fait, on n'en parle pas.
Richard Delorme, professeur, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, hôpital Robert Debré.
Il y a une crise silencieuse de l'enfance parce qu'on projette l'idée que c'est une population qui va bien, parce qu'elle est naïve, parce qu'elle ne s'oppose pas, parce qu'elle est là et de manière assez passive. En fait, c'est une population qui pense, qui s'oppose. Par exemple, au début de la crise, je pense que c'était quasiment un mois après le confinement, c'était une étude anglaise, elle montrait que les enfants de 8 à 10 ans étaient ultra préoccupés par les conditions économiques de leurs parents. Trop souvent, on pense que l'enfance, elle grandit seule, que les besoins de l'enfance sont finalement des besoins assez intuitifs et il suffit d'être là pour que ça fonctionne. Et en fait, la crise Covid, elle a montré que c'était autre chose, que l'enfance, c'est pas un objet passif et puis d'un seul coup, il a 14 ans, il s'oppose à vous et puis ça devient un objet significatif. Non, c'est une population qui est aussi en souffrance, et surtout les filles.
Vous savez pourquoi ?
Il y a des études, en tout cas, mais pour moi, un des éléments majeurs, c'est les violences faites aux filles, aux adolescentes et aux jeunes femmes. C'est un élément qui est majeur, en tout cas. Après, ce n'est pas le seul, probablement. Par exemple, il y a le fait que, par exemple, même dans l'organisation familiale, souvent les filles sont considérées comme l'aînée, entre guillemets, en termes de tâches ménagères à la maison, même si elles ne sont pas l'aînée. Mais par contre, elles doivent gérer le petit frère, les courses et tout ça. Donc, quand, par exemple, vous avez des familles monoparentales ou vous avez des familles où les deux parents travaillent, et bien souvent, en fait, les filles qui, même si une vision un peu, disons, ancienne de l'image que l'on a de la famille, mais c'est quand même quelque chose d'assez réel encore. On ne parle jamais suffisamment, en tout cas, des pressions, des violences sexuelles aussi. C'est une fille sur 10 qui subit des violences sexuelles. Il faut absolument s'intéresser à l'enfance. Et en plus, les déterminants de santé mentale à l'âge adulte, c'est ce qui se passe. Encore une fois, tout se joue pas dans l'enfance. Mais dans le cas, si on travaille fort pour améliorer les compétences, la confiance en soi, les goûts de l'empathie pour les enfants, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, bah, ça se projette dans la vie adulte. Par exemple, il y a une très très belle étude qui a été faite par un économiste que j'aime beaucoup, qui s'occupe des trajectoires sociales, qui s'appelle Yann Algan. Et il s'est intéressé sur l'accompagnement des enfants avec des gros troubles du comportement au Canada, avec des programmes d'accompagnement assez intensifs de ces enfants qui avaient des gros troubles du comportement. Et ce qu'il a montré dans ses chiffres, c'est dans le cas une diminution très importante de l'emprisonnement, très importante de l'accompagnement social, beaucoup plus de mariages, beaucoup plus d'accès à l'emploi. Donc vraiment, si on accompagne très précocement, on peut aussi transformer. Alors tout l'argent public ne doit pas être sur l'enfance. Mais dans le cas, encore une fois, c'est une période de vulnérabilité et il faut y penser parce que la vie ne commence pas au moment où on s'oppose à ses parents.
Les sociétés où les enfants sont heureux, je pense que ce sont des sociétés qui sont heureuses dans leur ensemble. En fait, la société qu'on offre aux enfants contemporains est une société plus violente. C'est une société qui est extrêmement dichotomisée. Quand on a été, puisque ça c'est une autre particularité de mon service, on est très exposé, on va dire, aux problématiques nouvelles. Et dans les deux problématiques nouvelles sur lesquelles on a beaucoup travaillé ces dernières années, il y a la question de la transidentité et la question de la radicalisation. Et finalement, force est de constater que cette évolution, elle a infiltré l'ensemble de la société. Et finalement, aujourd'hui, on a affaire en France à toute une série de radicalismes différents qui témoignent de la violence de cette société, parce que qui dit radicalisme dit, encore une fois, opposition violente entre points de vue. C'est ça la radicalité. Parce qu'en fait, la jeunesse est à l'image de ce qu'est la société aujourd'hui.
Il faut prendre la mesure de ce malaise de la jeunesse et bien en comprendre les déterminants, parce qu'il n'est pas si nouveau que ça.
Serge Effèze, psychiatre et psychanalyste.
Alors on parle beaucoup du Covid comme ayant été un coup de massue sur le moral des jeunes, et c'est juste que ça, il y a quelque chose qui est très repérable à cette époque-là, mais ça commençait avant. Et ça commençait autour de, je crois, ce que sont les difficultés économiques qui paraissaient de plus en plus grandes dans nos pays, dans notre pays en tout cas, avec cette idée très nouvelle chez les parents que les enfants allaient vivre moins bien qu'eux. C'est-à-dire que on a vécu pendant plusieurs générations avec une idée d'essor, l'idée que nos enfants auraient un destin encore meilleur que le nôtre, qui vivraient dans une société encore plus en paix, en meilleure santé, avec des possibilités économiques plus importantes. Et en fait, depuis peut-être, difficile à chiffrer, mais 15, 20 ans, eh bien, on est à l'idée contraire. C'est-à-dire qu'on va plutôt s'appauvrir et que ça sera plutôt plus compliqué. Alors, les jeunes, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête parce qu'évidemment, c'est un peu abstrait pour eux, mais pas pour leurs parents. Et dans ce qu'ils transmettent à leurs enfants, je crois qu'il y a eu plus de pessimisme par rapport à l'avenir et que les enfants ont perçu ça, c'est-à-dire ne plus être portés par cette idée de lendemain qui chante, si je peux dire, mais de lendemain difficile. Ça les a bercés. Bien avant l'épidémie, bien avant la guerre, bien avant les menaces écologiques, et que tous ces éléments sont arrivés par-dessus. C'est-à-dire que le Covid, évidemment, ça a été très représentatif de cette cristallisation des inquiétudes, parce que c'est repérable, ça commence un jour, et puis on est dans un autre monde. On est dans le monde de l'épidémie qu'on connaissait plus, de la maladie mortelle, de l'inquiétude, et puis celui du confinement, qui a quand même été le fait que ce qui nous est donné à vivre au quotidien, qui paraît très banal, le droit d'aller et venir, de sortir, de voir des amis, d'écouter de la musique, de s'amuser, etc., et ben c'était pas si évident que ça. On pouvait en être privé du jour au lendemain.
La Covid a bouleversé quelque chose pour les enfants, beaucoup, et les adolescents, qui est le fait qu'on leur a signifié, de façon très claire, que l'autre était dangereux. Hélène Romano, psychologue et docteur en psychopathologie. Ça a bouleversé le rapport à l'autre et au lien d'attachement. Un enfant, pour bien grandir, il a besoin de se sentir sécurisé, protégé par l'autre. Et là, le confinement est venu totalement briser cette croyance-là des enfants et insécuriser les adultes. Et les enfants, ils ont besoin des adultes. Donc les enfants, ils ont impérativement besoin d'avoir des adultes qui vont bien. Et après la Covid, on a eu la guerre en Ukraine, il y a la crise économique, il y a tout un contexte qui est décrit actuellement par les sociologues comme d'éco-anxiété. Ça n'est pas encore un terme qui est utilisé dans la littérature internationale, mais probablement que ça va arriver dans les troubles anxieux, qui est tout le contexte environnemental, extrêmement anxiogène, que l'on ressasse aux enfants, mais de façon très traumatogène au sens où il n'y a pas de perspective. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les alerter, mais on voit bien que quand c'est fait sur un registre sinistrosique, c'est extrêmement anxiogène. Un point important par rapport aux générations précédentes, c'est l'impact des médias. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15, 20 ans, il y avait un drame, il y avait une catastrophe, on en entendait parler par la presse écrite, éventuellement par la radio, la télé, il y avait peu de chaînes, et ce n'était pas du non-stop. Et ça, ça change quelque chose au sens où il n'y a plus la réflexibilité intellectuelle par rapport aux événements. C'est en permanence des sujets différents. Les enfants, ils sont exposés,
sans avoir des adultes forcément présents pour expliquer. Et les enfants, ils sont seuls face aux images, sans capacité de traduire ça. Les smartphones, ils ont accès à des images de viols, de morts, de décapitations, de corps, d'immolations, sans protection possible de ces images. Et ça, ça existait avant la Covid. Ça s'est aggravé après. Donc les enfants, ils ont l'idée que la vie d'aujourd'hui, ça sera pire que demain. Donc comment vous voulez grandir ? Vous faites des études, bah vous n'aurez pas de boulot. Vous devenez adulte, bah la planète elle va cramer, et c'est même pas la peine. On ne peut plus manger parce que tout est pollué, tout est mauvais pour la santé. Il n'y a plus de médecins, et quand il y a des médecins, il n'y a plus de médicaments. Donc c'est quand même un contexte global qui est très anxiogène pour les adultes, et d'autant plus pour les enfants, parce qu'ils ont besoin des adultes pour aller bien.
Vous savez, les enfants, mais aussi les adolescents, c'est des éponges émotionnelles, c'est-à-dire qu'ils ressentent tout un tas de choses qui se passent dans leur environnement, ils les absorbent, mais ils n'ont pas toujours la capacité de les comprendre, de les transformer, de les interpréter, de les nommer. Et donc, ils ont ressenti de front, dans leur corps, dans leur cœur, ces attaques à tous les niveaux. Et ça s'est manifesté de façon spectaculaire et principalement après le confinement, par des passages à l'acte. Parce que les ados, c'est comme ça qu'ils expriment leur malaise. Les tentatives de suicide, on le sait, qui ont été multipliées par deux, mais les épisodes d'angoisse, les épisodes dépressifs, les scarifications, les passages à l'acte violents contre soi, contre les autres, ou à l'opposé, les problèmes alimentaires, les phobies scolaires. Les ados qui se sont retrouvés complètement enfermés dans leur chambre, dans leur tipi, d'une certaine façon, dans une espèce repliée sur une zone de sécurité dont ils n'arrivaient plus à sortir et dont ils ne sont plus arrivés à sortir après le confinement. Donc c'est à travers, comme toujours, à travers leur corps et à travers leurs symptômes que les ados ont manifesté ce malaise, mais qui était un malaise de leurs parents et de la société dans laquelle ils sont.
Comment les aider alors, ces ados ? Comment faire que l'anxiété s'apaise ?
C'est déjà en prendre la mesure, c'est avoir les moyens d'y répondre, parce que évidemment il y a les réponses collectives et individuelles de chaque famille, des enseignants, etc. autour, mais il y a aussi eu, du fait de toutes ces décompensations, des besoins professionnels de psy qui savent parler aux jeunes, qui savent être à leur écoute, qui savent décrypter leur malaise et essayer de trouver des solutions, parfois même médicamenteuses, il ne faut pas hésiter quand ça va trop mal. Mais les psys ont été saturés par ce raz-de-marée. C'est-à-dire c'est arrivé au moment où la psychiatrie de l'enfant commençait à être en crise aussi. Donc ça a été une catastrophe. Et ça continue d'être une catastrophe dans la plupart des services de pédopsychiatrie, où des lits sont fermés parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'en occuper, et où on doit trier, d'une certaine façon, les jeunes en fonction de critères de gravité ou au contraire d'accessibilité pour savoir desquels on va pouvoir s'occuper en premier, avec des listes d'attente qui sont indignes d'un pays et d'un système de soins comme le nôtre.
La saturation du système de soins et de l'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent participe l'augmentation évidemment de prise en charge en urgence.
Angèle Consoli, professeure et psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
Un jeune adolescent, mettons, qui commence à avoir quelques symptômes dépressifs dans un contexte, familial un peu difficile ou scolaire ou dans un contexte difficulté, que ce soit dans les apprentissages ou de harcèlement, on va dire, présente quelques symptômes dépressifs. C'est-à-dire, si on ne l'écoute pas, on ne le prend pas en charge et qu'on ne lui propose pas des soins, une écoute et un suivi. Parfois, on parle de consultation thérapeutique. Parfois, il peut suffire de quelques consultations. Le fait même de mettre des mots sur des symptômes ou sur sa tristesse ou sur les enjeux, etc., peut faire que les choses s'améliorent assez rapidement. Mais si on laisse comme ça traîner et les choses s'aggravent et peut-être il n'ose pas trop parler de ci ou de ça, voilà, je pense qu'on peut finir quelques mois après avec un tableau plus sévère, plus marqué, avec là les critères diagnostiques d'un tableau dépressif et un risque suicidaire qui s'est sans doute accru. Donc je pense que quand même, une des hypothèses de ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une si grande difficulté d'accéder à des soins qu'on arrive aux urgences et dans des situations assez catastrophique.
Si un adolescent a une idée suicidaire et que lui ou ses parents demandent une consultation et qu'on lui dit « vous venez dans 3 mois »,
Marie-Rose Moreau.
Dans 3 mois, il a eu le temps de passer par de l'anxiété, du désespoir, et puis cette idée que ok, j'ai dit que j'allais pas bien, mais il s'est rien passé. Donc une sorte de « personne ne peut m'aider », la preuve. Et donc je pense aussi que c'est là où il y a une question politique, c'est la manière dont on organise les soins, des soins adaptés aux adolescents, à leurs parents, hein, parce que c'est les parents aussi qui protègent leurs adolescents, et que donc si on s'occupe pas bien des parents, on prend un risque pour tout le monde et pour les adolescents. Donc c'est aussi notre organisation des soins, et notre organisation actuelle des soins, elle n'est pas satisfaisante.
On se sent hyper seul. On se sent vraiment, vraiment seul parce que on a du mal à trouver, à savoir vers qui s'adresser, comment l'aider. Et c'est un peu un parcours du combattant.
Estelle.
Pour Ambre, on a eu beaucoup de chance parce que sa première hospitalisation, comme elle a perdu beaucoup de poids en très peu de temps, c'était vraiment une urgence vitale parce que son petit cœur battait à 36 battements minutes, elle respirait quasiment plus. Ouais, ouais. Donc ils se sont dit, ok, là, ouais, c'était très dur. Donc ils l'ont prise tout de suite. Donc quelque part, on a eu un coup de bol. Après, ouais, on se sent hyper seul. Question d'un point de vue financier, c'est hyper lourd. Hein. Typiquement, je suis maman célibataire, j'ai pas d'aide, tu fais un prêt en fait, hein, pour payer les séances de psy, parce que ça te coûte 80€ la séance de psy, je suis désolée, mais c'est très très lourd. Il y a des trucs sur lesquels tu fais des croix. J'ai pas envie de dire que c'est des concessions ni des sacrifices, parce que dans le sens où c'est pour s'occuper du bien-être de ton enfant, ça devient un bien, presque un bien primaire en fait.
Chiffres de Santé publique France avec une forte augmentation des consultations aux urgences pour des idées suicidaires, des tentatives de suicide, un mal-être. On voit une augmentation des dépressions, des troubles alimentaires chez les jeunes et chez les enfants.
France 2, 18 avril 2022, Claire Redon.
Et avec cette difficulté d'accès aux soins qui effectivement nous inquiète particulièrement parce que en fait nous sommes saisis et on nous fait remonter des informations.
Et on va en parler de voilà. ce que
de jeunes qui n'arrivent pas à accéder aux soins.
Vous avez dressé plusieurs rapports, notamment après les confinements, et qui révélaient donc que les 15-24 ans étaient de plus en plus nombreux à souffrir de troubles dépressifs. Personne ne vous a écouté.
C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Effectivement, c'est le rapport qu'on a rendu au moment de la Journée internationale des droits de l'enfant sur la santé mentale. Voilà, santé mentale des enfants à Drambéliette, il y a 6 mois exactement. Et en 6 mois, non seulement peu de choses ont été faites, mais en fait la situation s'aggrave.
La Convention internationale des droits de l'enfant, elle est assez précise sur les questions de santé. Dans son article 24, elle dit qu'elle reconnaît à chaque enfant le droit à la santé et le droit à l'accès aux services de santé.
Claire Redon, défenseur des droits.
Et cette reconnaissance, elle s'inscrit aussi dans un cadre plus large. On va pas parler que de la Convention internationale des droits de l'enfant, même si je vais y revenir, sur celui du droit fondamental à la santé, qui est consacré au niveau constitutionnel et international. Il est dans le préambule de la Constitution de 1946, il est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc il est présent dans un ensemble de textes qui nous obligent. Et ce qui est intéressant, si on revient à la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est qu'elle fait bien aussi le lien avec l'ensemble des droits de l'enfant. Et entre autres, la question, je pense que s'il y a un point essentiel dans cette Convention internationale des droits de l'enfant, c'est la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est de se poser à chaque fois la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ce n'est pas une notion vague. En fait, quand on prend une décision, est-ce qu'on le fait dans l'intérêt de l'enfant ou est-ce qu'on le fait pour des contraintes budgétaires ? par exemple. Et je redis, quand on signe une convention internationale, ça nous oblige. Et nous sommes, nous, institutions du défenseur des droits, chargés de dire quand on ne l'applique pas.
En fait, on se rend compte qu'il y a une tradition dans l'administration du ministère de la Santé où vous avez un certain nombre de politiques, mais également d'administratifs, qui ont l'intime conviction qu'en fait, en termes macroscopiques, favoriser la psychiatrie ou la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ne change rien au schmilblick de l'état de santé populationnelle en termes de santé mentale. Et ça, c'est assez difficile de lutter contre cette croyance.
Il n'y a pas un moment, une prise de conscience en se disant que les enfants, tout simplement, basiquement, que les enfants aujourd'hui sont les adultes de demain?
C'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une prise de conscience, parce qu'il y a même des droits humains, des droits de l'enfant, enfin, toute une série de déclarations, etc. Je parle dans la vie quotidienne des structures. Bon, je prends l'exemple souvent, moi, c'est des données qui sont des données connues de tous les hôpitaux. On repeint beaucoup plus souvent dans les hôpitaux les services de cardiologie et d'urologie, parce que c'est là où on a les hommes puissants, influents, riches, qui sont éventuellement hospitalisés. On repeint beaucoup moins souvent les maternités, les services de gériatrie, les services de pédiatrie, et je vous parle même pas de la psychiatrie et de la psychiatrie de l'enfant. Parce que c'est là où on a les personnes vulnérables qui ne sont pas influents. Ça, c'est quelque chose qui, au-delà de la prise de conscience collective, est une réalité quotidienne des discriminations. Et donc, il y a une forme de résistance aux chiffres, aux décisions, aux arbitrages. Et quand il y en a, et Dieu sait s'il y a des arbitrages, vu qu'on manque de sous pour financer plein de choses, c'est toujours au détriment des enfants, toujours au détriment de la psychiatrie. Donc nous, comme on est psychiatre d'enfants, on a les deux.
Je crois vraiment que nous n'aimons pas au sens philosophique, au sens politique du terme, nous n'aimons pas assez notre jeunesse. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déception, qui d'ailleurs se joue à tous les niveaux. La déception de l'ado, hein, souvent, ils disent « Mais madame, vous le savez, on vaut rien, ou je vaux rien ». D'ailleurs, souvent, ils nous interrogent sur notre intérêt pour eux. Ils sont un peu étonnés. Vous n'avez pas marre de nous. Vous n'avez pas envie de faire autre chose. Ils peuvent dire des choses comme ça, parce qu'ils ont vraiment un sentiment de ne pas être aimables, au sens fort du terme. Et donc, la déception eux-mêmes, parce qu'ils ont déçu les uns les autres, la déception parfois de leurs parents, qui imaginaient un enfant différent. Et tant qu'ils sont petits, ça va, mais quand ils sont ados, ben, des fois, ils nous déçoivent. Et puis la déception des enseignants, de la société, du monde. Il y a une quantité de déceptions qui pèsent sur leurs épaules, qui, moi, me semble toujours... bien sûr, c'est des préjugés et c'est des représentations collectives, mais qui me semble encore aujourd'hui un peu étonnante, quoi. Parce qu'au fond, ils ont plein de qualités, plein de ressources. Je prends un dernier exemple sur la question de l'engagement. On dit que nos jeunes gens ne s'engagent pas. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont des causes écologiques, ils ont des causes politiques, ils ont des causes humaines. C'est l'engagement de leur époque. Ça, c'est très important d'agir sur le cours du monde, sur l'aspect négatif, sur les grands dangers.
Qu'est-ce qu'il faut imaginer pour ces jeunes ? Vous savez, on peut parler d'éco-anxiété, par exemple. Moi, j'aime pas tellement le terme d'éco-anxiété, je l'ai toujours dit, parce que c'est comme si on était malade. Voilà, on est éco-anxieux, ça veut dire qu'on est malade. Alors que pour moi, c'est l'inverse.
Ça ramène qu'à soi.
Voilà, c'est ça, ça ramène à soi. Voilà, ça ramène à son propre univers intérieur, alors que c'est au contraire. L'anxiété écologique, d'abord, elle me paraît saine. Je pense que c'est très sain d'être anxieux à l'heure actuelle pour l'avenir écologique. C'est plutôt un signe de bonne santé mentale. Et que l'important, c'est que l'anxiété, justement, ne ramène pas à soi, mais ramène au collectif, là où ça doit se passer. Pour les jeunes, il faut absolument que ce soit l'occasion de se relier les uns aux autres dans des possibilités d'action collective, c'est-à-dire faire ensemble, réfléchir ensemble, faire des groupes, faire des associations, faire des groupes de pression. Moi, j'adore donner aux ados l'exemple de Greta Thunberg, que je trouve absolument extraordinaire, parce qu'elle raconte... en plus, elle est autiste, elle est adolescente, elle est autiste, et elle est sur un canapé, elle regarde la télé, elle voit un ours, la banquise en train de fondre avec un ours tout seul sur la banquise, et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis, elle décide qu'elle va sortir de sa éco-anxiété ou de son éco-dépression, et elle réussit à rameuter la planète entière et à voir tous les chefs d'État. Je trouve que c'est un exemple merveilleux. Alors, on peut penser tout ce qu'on veut d'elle, mais pour les jeunes, c'est un exemple formidable. Ça montre qu'avec un petit peu de volonté, et surtout le fait d'avoir foi, dans l'action collective et dans le groupe, ben on peut trouver quand même des leviers qui sont des leviers d'action et qui permettent de sortir de la passivité. Ces jeunes-là, ils ont été biberonnés à l'individualisme. On invite les jeunes à devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire à avoir cette idée qu'ils doivent eux-mêmes trouver leur chemin, leur voie, leurs désirs, leurs plaisirs, leurs investissements, et que tout part de l'intérieur, de ce qu'ils sont. Ça va totalement à l'opposé de ce qu'était l'individu dans les sociétés plus traditionnelles, disons, où le jeune n'est qu'une partie du collectif, où le jeu ne signifie rien s'il n'est pas intégré dans un groupe, une action communautaire, une religion, une caste, une tribu, une église, une famille, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire où le jeu procède du nous, et c'est pas le nous qui procède du jeu. C'est très, très, très différent. Et donc, ces jeunes qui ont été biberonnés à cette vision très individuelle de l'individu dans nos sociétés, ils se sentent du coup responsables de tout. Et quand les choses vont pas, eh ben, c'est sur eux que ça retombe. Ils n'ont plus cette fibre du collectif qui peut être leur levier d'action.
Avec Mylène Feufeu, David Cohen, Alice Aupetit, Marie-Rose Moreau, Angèle Consoli, Estelle, Léa et sa maman, Auguste Béagel, Claire Edon, Richard Delorme, Hélène Romano, Nathalie Ten, Serge Ephèse et Marie. Merci à la direction de la communication de la PHP et à toute l'équipe du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris. Merci à l'équipe de pédopsychiatrie de l'hôpital de la Salpêtrière. Merci à l'équipe de l'unité Seguin et Simon, à Alicia Cohen et Claire Deschamps.
Et de bonnes nouvelles arrivent, je sens.
Non.
Ah oui, ça j'imagine.
Je viens d'être appelée par l'équipe d'Attrape.
Ah, mais ça faisait longtemps.
Donc en fait, ils nous appellent pour une jeune qui, pour laquelle ils ont été contactés par une éducatrice spécialisée. Mm-hmm. Et en fait, l'assistante sociale scolaire était très inquiète parce qu'elle avait remarqué un décrochage scolaire et puis aussi un comportement hyper sexualisé, et elle s'est rendue compte qu'elle proposait des fellations aux autres garçons au collège. Mm-hmm. Il y a eu dans la foulée une fugue. Il y a une des éducatrices de Feu Vert qui l'a retrouvée en banlieue alors qu'elle proposait des services sexuels à des hommes, qui l'a emmenée au commissariat. Au commissariat, elle a dit avoir des flashbacks d'attouchement pendant l'enfance de son père. Donc, il y a eu un signalement qui a été fait par le commissariat. Et du coup, elle a été mise en foyer d'urgence où il y a eu de nouveau des mises en danger. Les parents ont été informés du signalement. Et en fait, le père nie tout attouchement. Mais elle aurait eu des attouchements par des camarades de classe en primaire. Mais rien n'aurait été fait. Elle a refugué ce week-end du foyer. Ils l'ont retrouvée à Caen. Et ils ont proposé à l'éducatrice spécialisée de l'envoyer aux urgences pour qu'il y ait une évaluation psy qui soit faite, et puis aussi une évaluation somatique qui soit faite par rapport aux IST, etc. Ben, voilà.
D'accord.
Donc en fait, il faut qu'on prévienne, les urgentistes, qu'elle va arriver, sachant que là, pour le moment, elle est à Caen, donc le temps qu'elle arrive, tout ça, on ne sait pas trop à quelle heure elle va arriver.
Je pense qu'on va aussi pouvoir rapidement mettre... C'est Mathilde qui nous aide sur la situation sociale.
Oui.
Prise de son Virginie Lorda, Martin Troadec, Marc Hervenès, Lucien Lefebvre et Manon Houssin. Mixage Bastien Varigo.
Un sentiment tenace, une douleur vorace. J'ai oublié la veille, mais tout sera pareil. Acide, un sentiment. Un sentiment acide.
Documentation Annelise Signoret. Chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination Johanna Bedeau. Jeunesse, le mal de vivre, c'était Santé mentale, le cri d'alarme des professionnels. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. À suivre, Jeunesse, le mal de vivre, les jeunes ont la parole.
Mais tout sera pareil, acide, un sentiment.